Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 16h. Je suis Olivier Delacroix et je suis ravi de vous retrouver comme chaque jour pendant une heure en compagnie de ma camarade Ambline. Comment allez-vous ma chère aujourd'hui?
Ça va bien, bonjour Olivier, bonjour à tous.
Bonjour. Pendant cette heure, comme vous le savez, nous partageons vos expériences de vie car Europe 1 s'intéresse à votre vécu. Plus de 600 femmes accouchent sous X chaque année en France, un dispositif propre à notre pays qui permet à une mère de mettre au monde anonymement un enfant sans que celui-ci ne puisse la retrouver. Plusieurs raisons poussent ces femmes à vouloir accoucher sous X. La jeunesse, souvent, également les difficultés financières. De nombreux enfants veulent, une fois qu'ils sont grands, connaître leurs origines, mais il est très difficile de recouper des informations. En janvier 2002, une loi a été votée pour renforcer les possibilités d'information pour l'enfant. C'est là qu'a été créé le CNAOP, le Conseil National pour l'accès aux origines personnelles. Mais comment se passe un accouchement sous X? Une femme peut-elle retrouver son enfant plusieurs années plus tard, si elle le souhaite? Quels sont les droits qui existent actuellement pour les enfants nés sous X? L'accouchement sous X, quelles conséquences? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Une émission en partenariat avec le film prochain qui sortira le 5 décembre prochain. Un film de Jeanne Herry qui s'appelle Pupille et qui sera, je le rappelle, sorti donc en salle le 5 décembre prochain. Un film qui suit le parcours d'un couple qui souhaite adopter et celui d'une jeune femme qui accouche sous X. Nous attendons vos témoignages, vos histoires concernant l'accouchement sous X. Nous sommes là pour vous écouter.
Et vous n'hésitez pas à composer le 39-21, le standard d'Europe 1. 39-21, 50 centimes la minute. Vous nous écrivez également sur Twitter, hashtag Europe 1. Et via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
15h-16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Moi, ça m'a pris un peu de temps avant de pouvoir l'envisager.
D'accord.
Enfin, d'accepter que j'aurai jamais d'enfant à moi. C'est peut-être pas la peine de le mettre dans votre rapport.
Un bon candidat à l'adoption, c'est pas quelqu'un qui a rien vécu de douloureux. Dans la vie, on a tous des champs de mine et des champs de fleurs. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est si vous avez réussi à déminer votre champ.
C'est un petit garçon. Vous voulez le voir ?
Pupille, un film de Jeanne Herry qui sortira en salle le 5 décembre prochain et qui est ton partenaire aujourd'hui avec cette émission. Nous accueillons au 39-21 Béatrice. Bonjour, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour Olivier.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Béatrice?
Alors j'ai 47 ans et je vous appelle de la région parisienne.
D'accord. Vous avez toujours su que vous étiez une enfant née sous X, hein, Béatrice?
Ah oui, toujours. Je ne sais pas quand on me l'a appris, mais j'ai le sentiment de l'avoir toujours su.
Et qu'est-ce que ça a suscité en vous, le fait de savoir ça?
Ben ça a focusé mon énergie sur la recherche de mes origines, en fait. Mmh. Ça, toute mon énergie, toutes mes pensées, toute ma vie a été dirigée vers ça finalement, jusqu'à ce que je retrouve.
Parce que dès que vous l'avez su, Béatrice, vous avez cherché votre mère biologique, hein?
Ah oui, tout de suite. Uh-huh. Tout de suite, même toute petite, j'écrivais des lettres en cachette de mes parents adoptifs que je confiais à des copines pour qu'elles les envoient, pour que la DAS de l'époque me donne le nom de ma maman et, mmh. et son adresse. Quoi.
C'était une quête essentielle, primordiale pour vous?
Ouais, essentielle, c'est vraiment le mot. Et c'est sûr que c'est difficile de s'imaginer pour des gens qui savent qui est leur père, qui est leur mère, d'où ils viennent, d'où ils sortent, de comprendre ce qu'on peut ressentir quand on n'a rien du tout derrière ni devant.
Oui.
Mais c'est comme se regarder dans une glace et pas se reconnaître ou voilà quoi. On se sent flottant, perdu dans ce qu'on doit être, dans ce vers quoi on doit aller, de quel projet on fait partie. On se sent en décalage permanent et on a du mal à se trouver soi parce qu'on ne sait pas sur quelle base construire en fait sa personnalité et ses envies et son parcours.
Mmh. On est en permanence en train d'essayer d'interpréter la décision que cette mère biologique a prise le jour où elle a accouché sous X, je suppose.
On cherche des explications, on cherche des raisons, on croit qu'on est peut-être mal aimable,
ouais.
Que c'est peut-être pour ça qu'elle nous a laissé tomber, que peut-être on a eu un regard, quelque chose à la naissance qui lui a déplu et qui a cassé le lien, ou on pense qu'on est peut-être le fruit de quelque chose d'horrible et qu'on est ce souvenir permanent.
Est-ce que vous la compreniez parfois dans toutes ces hypothèses? Est-ce que vous compreniez la décision de votre mère?
Moi, j'avais beaucoup de colère qu'elle ne revienne pas me chercher.
Oui.
Mais je crois que je vais toujours chercher des excuses à l'abandon. Et quand je l'ai retrouvée, et que, donc adulte, et que j'ai su un début de vérité, j'ai tout à fait pu pardonner l'abandon. Mmh.
Alors justement, un jour, vous avez fait une émission de télévision. Le lendemain, un organisme vous a appelé pour vous livrer votre dossier. Racontez-moi exactement la version, votre version des choses.
Ma version des choses, c'est donc ça faisait un moment que je cherchais. Mon dossier d'ASE était coincé à Lyon.
Ouais.
Je l'ai fait déplacer sur la région parisienne et je suis passée sur une émission de télévision qui était sur Canal à l'époque, à La Grande Famille.
Mmh.
Et le lendemain, on m'a appelée pour me permettre de consulter mon dossier à nouveau. Et cette fois-ci, je suis tombée sur un jeune homme qui a laissé mon dossier sur son bureau et qui est sorti en me laissant le consulter toute seule. Et pour une fois, il n'y avait pas de blanco dessus, quoi. Donc,
vous avez
les éléments identifiants
n'étaient
pas cachés. Donc, j'avais le nom de ma mère.
Mmh. Et ce nom, une fois que vous êtes rentrée chez vous le soir, vous l'avez cherché sur le Minitel à l'époque. Et vous avez pris la décision de l'appeler.
Ouais. C'est même pas prendre la décision. C'est que, voilà, ça faisait trop longtemps que j'attendais. Donc, j'ai cherché, j'ai trouvé immédiatement. J'ai eu du bol. Elle n'était pas mariée ou voilà. Et elle avait un nom un peu particulier, donc facilement reconnaissable.
Mmh.
Et je l'ai appelée directement, et voilà. Donc je lui ai dit, voilà, je suis Véronique, mon prénom de naissance. Je suis née 5 décembre 70, ça doit vous rappeler quelque chose.
Ouais.
Et donc elle m'a répondu, je ne suis pas votre mère. Ce qui était pour moi l'aveu le plus transparent du fait qu'elle était bien ma mère.
Béatrice, voilà. Vous restez en ligne avec nous. Nous allons continuer à parler de la suite de votre histoire, justement, la suite de cette histoire avec cette mère que vous avez retrouvée dans ces conditions.
Europe 1. Vous êtes née sous X, quel est votre parcours? Êtes-vous en quête de vos origines? On vous écoute au 39-21, vous nous écrivez, nous vous lisons, bien sûr, via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Des enfants adoptés qui doivent accepter de ne rien savoir sur leur conception, leurs origines. Vous êtes né sous X, vous avez accouché sous X, vous témoignez au 39-21. Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous sommes toujours en ligne avec Béatrice qui nous expliquait avoir toujours su qu'elle était une enfant née sous X et avoir toujours recherché sa mère biologique. Et puis au cours d'une émission de télévision, il y a très longtemps sur Canal+, La Grande Famille, eh bien, tout s'est enchaîné assez vite pour vous, Béatrice. Une fois que vous avez récupéré les informations donc, sur votre mère biologique, vous avez pris la décision de l'appeler, comme vous me le racontiez dans la première partie de cette émission. Ça a été aussi bref que non, je ne suis pas votre mère. Et est-ce qu'elle a raccroché ou ça, il y a eu d'autres, il y a eu un échange?
Non, on n'a pas eu d'échange. Elle avait quelque chose sur le feu. Et donc elle devait raccrocher. Bah oui, elle m'a dit qu'elle avait une casserole sur le feu et que voilà, elle devait raccrocher.
Et
donc elle a raccroché.
Dans quel état étiez-vous? Parce que vous étiez sûre que c'était votre mère biologique?
Oh, je savais que c'était elle.
Ouais.
J'étais à la fois partagée. J'avais réussi quelque chose. J'avais quand même réussi à lui mettre la main dessus et entendre sa voix. Donc ça, c'était déjà colossal. C'était plus de 20 ans de ma vie qui trouvaient un accomplissement.
Ouais.
Et puis, il y avait quand même une immense déception de ne pas avoir su l'intéresser davantage à moi, quoi.
Mm-hmm.
C'était encore une culpabilisation de me dire ben, « je ne suis même pas capable, quand je la retrouve, qu'elle ait envie de passer 10 minutes avec moi au téléphone
mm-hmm. ».
Voilà.
Vous vous sentiez blessée ou vous l'excusiez encore, cette mère, parce que vous l'aviez...
Non, elle était en colère.
Ouais, vous l'aviez excusée pendant de nombreuses années avant.
Ouais.
Vous lui aviez trouvé tout un tas d'excuses. Donc, est-ce que finalement, vous lui en trouviez encore là, à ce moment-là?
Non, là, non.
Non,
non, parce qu'en plus, l'histoire, c'était pas l'histoire que je m'étais faite dans la tête, quoi.
Ouais.
J'imaginais que c'était une jeune femme qui m'avait abandonnée parce qu'elle n'avait pas d'autre solution. Mm-hmm. Et voilà. Puis en fait, elle avait 43 ans quand elle m'abandonne. Et donc là, c'est une adulte, c'est très différent.
Mm-hmm.
C'est plus une histoire d'erreur. Enfin, 43 ans, mm-hmm. On peut imaginer qu'on a un peu plus de maturité, de stabilité dans la vie. Et surtout, quand je la recontacte plus de 20 ans plus tard, j'imagine que les enjeux ne sont plus les mêmes qu'à 40 et quelques années.
Mmh.
Et là, j'ai vraiment très mal vécu le fait qu'elle ait pas voulu faire un pas vers moi. Quoi.
Mmh. Alors,
parce
il y a...
que je ne venais plus rien menacer, elle n'était pas mariée. Voilà. Mmh. Bon, voilà.
Alors, dans cette histoire, tout se précipite, hein, puisque vous avez su assez rapidement que vous aviez des frères et sœurs. Vous les avez rencontrés rapidement, ces frères et sœurs?
J'ai rencontré l'une de mes sœurs assez rapidement. Et puis bon, les relations ne se sont pas particulièrement nouées, ni rien de précis. Et puis, une dizaine d'années plus tard, moi, j'ai eu des problèmes de maladie, etc. Donc, j'ai renoué avec cette sœur.
Oui.
Et puis, en parallèle, je ne sais pas pourquoi, je traînais encore sur les forums de Né sous X pour donner un coup de main de temps en temps.
Mm-hmm.
Et puis là, j'ai lu un message qui a fait tilt, puisque un homme qui avait été, qui était passé par le CNOP, donc le CNAOP, qui avait contacté sa mère de naissance, disait qu'elle avait opposé un refus assez brutal en disant voilà, je ne suis pas la mère de cette personne. Et ça a fait tilt. Je me suis dit, tiens, c'est rigolo, elle a prononcé exactement la même phrase que ma mère il y a 20 ans. Et donc, je l'ai interrogée un petit peu sur, pour savoir s'il savait des choses à propos de cette mère biologique. Et il m'a dit oui, elle a les yeux bleus, elle a à peu près 80 ans. Elle a d'autres filles apparemment et elle a répondu ça au CNAOP et elle veut pas me voir.
Oui.
Et je dis, oh bah tiens, c'est rigolo, on est né au même endroit et ma mère correspond à ces traits-là.
Mm-hmm.
Et puis bon, il y avait des éléments de de groupe sanguin, etc., un peu particulier. Et puis en fait, il s'est avéré que cette personne croisée sur un forum était mon frère aîné.
Mm-hmm.
Vous
avez fini par aller la voir, cette mère. Hein
ouais, on est allé la voir. Elle a été toujours aussi stoïque et droit dans ses bottes qu'elle l'avait été avec moi. Et lorsqu'on lui a posé la question de savoir si on devait chercher d'autres enfants, parce qu'après tout, on commençait à être un petit peu nombreux, elle nous a dit oui, vous avez qu'à chercher. Je ne me rappelle plus, vous avez qu'à chercher.
Mm-hmm. En tout cas, voilà, l'histoire, elle est... tout de même belle, puisque vous avez retrouvé trois sœurs, un frère, quatre sœurs, un frère. Comment ont réagi vos parents adoptifs à cette idée ? Est-ce que ça s'est bien passé ?
Pour mes parents, ça a été un peu dur. Déjà, l'adoption, ce n'était pas super bien passé, donc on n'avait pas des relations tout à fait idylliques. Hein. C'était plus proche du champ de mine que du champ de fleurs, pour reprendre la métaphore du film. Et ce n'est pas une adoption qui était très bien accordée. Et voilà, entériner quelque chose. Quoi.
Et est-ce que ces relations, finalement, entre vous et vos parents adoptifs, qui devaient être tumultueuses à cause de vos quêtes et de tout ce qui vous traversait, justement, à cause de cela, est-ce qu'il faudrait, selon vous, revoir les lois qui concernent les femmes qui accouchent sous X pour que les enfants puissent aussi avoir accès ?
Absolument.
Ouais.
De toute façon, ça n'a plus aucun sens, ces lois. Les lois qui nous interdisent l'accès à nos origines n'ont plus aucun sens. Aujourd'hui, on peut avoir des analyses de notre ADN, et avoir accès à des gens qui ont les mêmes origines que nous et donc à travers cela retrouver nos origines. On s'apprête à étudier le cas de la PMA et de l'anonymat du don dans ce cas-là aussi. Ça ne tient plus, cette histoire de naissance sous X, plus du tout. D'abord, ça ne protège personne. J'en suis une preuve vivante. Ma mère a accouché 7 fois sous X et on l'a tous retrouvée.
Ouais.
Donc, à l'heure d'Internet, du monde ouvert, la circulation de l'information, c'est impossible de promettre un X à une femme. C'est impossible. Il faut arrêter avec ça. Et la deuxième chose, c'est que nous, enfants, ça nous plombe complètement parce qu'on passe plus d'énergie à chercher nos racines qu'à développer les branches et les ramifications de notre arbre de vie, voilà, pour prendre une métaphore. Et en plus, ça plombe les mères de naissance aussi parce que le secret, le mensonge, ça tue une vie.
Le mensonge, en tout cas, a l'air d'atteindre tout le monde et finalement, il n'est jamais bon, surtout dans ce type d'histoire. Merci infiniment, Béatrice, pour votre appel et votre témoignage au 3921. Nous serons dans quelques instants avec Nadine Lefaucheur. Elle est sociologue, historienne et a beaucoup travaillé sur l'accouchement sous X.
Et le message de Julia sur Facebook, en ce qui me concerne, cela reste des interrogations sur qui je suis et d'où je viens.
Europe 1.
Vous vous reconnaissez dans le témoignage de Béatrice qu'on vient d'entendre de Julia qui nous écrit sur Facebook, vous êtes né sous X, vous voulez connaître votre histoire, vous avez accouché sous X, vous témoignez au 3921. Vous êtes avec Olivier Delacroix et vous composez le 3921 pour venir nous raconter votre histoire, vous avez été adopté né sous X, vous vous posez des questions sur vos origines, je vous rappelle qu'on vous lit via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
Et nous avions dans la première partie de cette émission Béatrice qui avait cherché toute sa vie sa mère, sa génétrice, sa maman biologique et qui avait fini par la retrouver, des retrouvailles assez froides, mais finalement elle a retrouvé des frères et sœurs et l'histoire finit tout de même un peu bien en tout cas. Nous sommes maintenant en ligne avec Nadine Lefaucheur. Vous êtes bonjour madame, vous êtes sociologue, historienne et vous avez beaucoup travaillé sous l'accouchement sous X. Soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Merci.
Comment et pourquoi est arrivé l'accouchement sous X en France ?
Oh, c'est une très longue histoire. On peut même la faire remonter au moins jusqu'au XIIIe siècle. Bon, en fait, c'est complètement lié à une préoccupation qui a traversé donc les siècles, d'essayer d'empêcher l'infanticide, enfin les accouchements sauvages et l'infanticide. Mmh. Et bon, c'est une histoire vraiment trop longue pour que je la raconte ici, mais disons que on fait souvent remonter à la loi de 1941 sous Pétain qui a ordonné aux établissements de santé public ou privé conventionné d'accueillir gratuitement et sans enquête les femmes qui demandaient le secret.
Pourquoi, pourquoi docteur, voilà. En fait, est-ce une spécificité française parce que ça n'a pas l'air de se passer comme ça dans les autres pays?
Oui, non, effectivement, ça se passe pas comme ça. Bon, il y a toujours, enfin, on trouve malheureusement, ou je sais pas, toujours des solutions qui ont été trouvées pour essayer quelquefois de garantir la confidentialité au moins, sinon le secret. Mais c'est une histoire compliquée parce que elle est en partie liée à la Révolution française, qui était la première justement à avoir le projet de créer des établissements où la femme pouvait venir accoucher secrètement, gratuitement. Et c'est une histoire qui passe à travers les partis politiques. Elle est à la fois défendue par des gens plutôt de gauche, plutôt féministes, ouais. Par des gens plutôt réactionnaires. Voilà, donc c'est une histoire compliquée et à laquelle effectivement on s'accroche en France comme si c'était quelque chose qu'il fallait défendre à tout prix comme constitutif de l'identité française.
Hein, mais vous, madame, vous qui avez beaucoup travaillé sur l'accouchement sous X, quel serait le pays que vous prendriez en exemple justement pour que enfants et mères qui accouchent sous X soient le mieux lotis? Quel pays pourrait être le bon exemple?
Non, mais justement, je pense que c'est l'accouchement sous X qui pose problème.
Ouais.
C'est l'anonymat, hein, le sous X, qui d'ailleurs n'était pas dans la loi à l'origine. Au départ, c'est une question de pouvoir ou non payer les frais d'accouchement. Mmh. Et à qui faire payer lorsqu'une femme ne veut pas que sa famille le sache ou que son entourage le sache, ou une femme dont, parce que c'est souvent le cas, dont les parents n'ont pas voulu que cela se sache parce qu'elle était mineure, elle était étudiante, etc. Le cas de Béatrice est quand même assez exceptionnel. C'est vrai qu'on peut citer, bien que ce soit anonyme, enfin on sait quand même qu'il y a des femmes qui ont accouché plusieurs fois sous accouchement sous X.
Ouais, ouais.
7 fois, c'est beaucoup. Et j'aurais aimé demander à Béatrice, puisqu'elle a retrouvé ses frères et sœurs, je pense qu'ils ont sans doute eu la possibilité d'en savoir davantage sur leur mère et pourquoi elle avait été contrainte ou au contraire, elle avait accoucher sous X.
Alors, pour connaître un peu l'histoire de Béatrice, ce que je peux vous dire, c'est que cette raison restera un secret, malheureusement, puisque cette mère n'a jamais donné de raison à ses enfants qui l'ont mis pourtant dans les meilleures conditions jusqu'à la fin de sa vie. Et elle aura emporté son secret avec elle, malheureusement. Revenons à ces accouchements sous X. Dans les années 80, on comptait près de 10 000 accouchements anonymes par an. Aujourd'hui, on en compte 600. Pourquoi cela a-t-il baissé, selon vous, aujourd'hui ?
10 000, ça me semble vraiment beaucoup. Hein.
Moi, je lis ce qu'on me met sur les fiches, hein. Mais normalement...
Oui. Ouais. Bon, bah, écoutez, j'ai pas moi, là, sous les yeux, les données chiffrées, mais 10 000, ça me semble vraiment...
Pour les années 80, hein. Pour les années 80. Oui, 600
oui.
Aujourd'hui.
Bon, alors, c'est vrai que pendant longtemps, je suis en train de travailler dessus d'ailleurs,
ouais.
On a pensé, souvent de bonne foi, pas toujours, qu'il valait mieux pour des femmes qui étaient jeunes, qui n'avaient pas de ressources, qui voulaient se cacher de leurs parents parce qu'il y avait des histoires de religion, catholique ou musulmane, d'ailleurs entre
ouais.
les deux, hein, et que les femmes craignaient. Donc on a beaucoup pensé dans les années 80 qu'il valait mieux pour l'enfant lui-même, pour la mère, et pour, même pour la société, que, qu'elle accouche sous X et qu'on donne l'enfant en adoption à des bonnes familles. Bon, 10 000, ça me semble beaucoup, mais enfin, c'est pas grave.
Écoutez, si pendant le cours de l'émission, on a l'occasion, mais normalement, j'ai les bons chiffres, hein, on me l'a transmis depuis la régie, mais bon, voilà, pour l'instant, je vous dirai si ce chiffre doit être rectifié. Si une mère regrette a posteriori son choix, peut-elle avoir des recours pour retrouver son enfant aujourd'hui ?
Oui, alors déjà, la loi depuis 41 a prévu ce qu'on appelait un délai de repentir ou un délai de réflexion qui a varié entre un mois, deux mois, trois mois, pendant lequel la femme pouvait revenir sur sa décision et reprendre l'enfant qui avait été remis à l'assistance publique. Bon, il y avait toujours malgré tout des problèmes d'imputation des frais d'accouchement. Mais il y a eu des grands débats dans les années 60 à propos des droits relatifs des parents de naissance et des parents adoptifs. Et c'était une affaire célèbre, l'affaire Novak. Et ça a été tranché en 1966 par l'adoption plénière qui faisait qu'à partir du moment où l'enfant avait été placé dans une famille, même si le jugement d'adoption n'était pas encore prononcé, ça n'était plus possible pour la mère de le reconnaître et de le reprendre.
Alors, Nicole Le Faucheur, vous restez avec nous en ligne. On abordera aussi les droits de l'enfant dans ces histoires d'accouchement sous X. Dans quelques instants, nous accueillerons Marie-Christine. Elle a accouché sous X, mais elle contre son gré.
Europe 1. Vous avez été un enfant adopté né sous X. Vous avez accouché anonymement. On a envie de vous entendre. Vous nous racontez votre histoire au 39-21. Vous pouvez aussi nous écrire sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Vous êtes à la recherche de votre histoire. Vous êtes né sous X. À quel obstacle êtes-vous confronté ? Vous avez accouché dans le secret, une émission en partenariat avec le film Pupille de Jeanne Héry qui sortira en salle mercredi prochain, le 5 décembre. On vous attend au 39-21. Vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et nous évoquions avec Nadine Le Faucheur il y a quelques instants, qui est historienne et sociologue, qui a beaucoup travaillé sur l'accouchement sous X, le droit de ces mères qui accouchent sous X. Nous sommes avec Marie-Christine qui justement a elle accouché sous X. Bonjour Marie-Christine, soyez la bienvenue sur l'antenne.
Oui, bonjour.
Alors, bonjour. Bonjour Marie-Christine, vous avez accouché donc dans les années 70 sous X.
Oui.
Vous aviez 18
oui.
ans. Était-ce une grossesse désirée ou non ?
Non, c'était ce qu'on appelle un accident.
Un accident. Comment votre famille a-t-elle réagi par rapport à cette grossesse ?
Je pense qu'il y a eu une très mauvaise réaction, mais à l'époque, les parents avaient la possibilité de mettre les filles dans la situation dehors.
Ouais.
Mais j'ai eu des parents qui m'ont quand même gardée chez eux, mais il n'y a plus de... Il n'y a plus de relation, il n'y a plus de contact, il n'y a plus rien eu. Quoi.
Vous étiez ce que l'on appelle une fille-mère hein, à l'époque.
Tout à fait.
Ce qui était totalement mal vu hein, à l'époque, lorsqu'on avait votre âge et qu'on était enceinte sans connaître vraiment le papa. Est-ce que vous avez pris le temps en 9 mois de réfléchir si vous vouliez garder ou non cet enfant ?
Oui, bien sûr, bien sûr. Et comme moi je travaillais et puis que j'avais la possibilité de pouvoir l'élever, cet enfant, il n'y avait vraiment aucune ambiguïté, quoi.
Et lors de l'accouchement à la maternité, vous avez pu garder votre enfant pendant 3 jours, puis on ne vous a pas laissé le choix, il s'est volatilisé. Hein.
C'est d'une
violence extrême ce que vous avez vécu à l'époque.
Oui.
Que vous a-t-on dit ? Que s'est-il passé ? Et vous, surtout, comment vous avez vécu tout ça ?
C'est-à-dire que sous le choc, en fin de compte, j'ai pas trop bien compris. Je me suis sentie un petit peu résignée aussi. Et j'ai pas eu le choix. On m'a dit que je ne le verrai plus. Et puis qu'il y avait... c'était fini, quoi.
Mais par contre,
on ne m'a jamais dit, si j'avais des droits de le voir, si j'avais droit de...
On ne vous a donné qu'un droit à l'époque, c'est de vous taire et d'accepter cette situation, visiblement.
Tout à fait.
Marie-Christine, vous avez retrouvé aujourd'hui votre fils, hein, grâce à un passage dans une émission de télévision. Vous aviez quel âge à ce moment-là, quand vous avez retrouvé votre fils ?
Il n'y a pas longtemps, il y a 3 ans.
Il y a 3 ans. Et vous n'aviez...
Donc j'avais 59 ans.
Vous aviez 59 ans et vous n'aviez jamais cessé de le chercher, hein, vous dites.
Tout à fait.
Comment ça s'est passé, ces retrouvailles ? Ça a dû être énorme.
Oui, c'est énorme. Nous communiquions par mail et une fois par téléphone. Et le jour où nous nous sommes rencontrés, ça a été très... J'ai énormément pleuré avant.
Oui.
Et le jour de la rencontre, je n'ai pas pu. Donc, le lendemain, oui.
Ouais.
Non.
Vous n'avez pas pu quoi ? Pleurer ?
Je n'ai pas pu pleurer, voilà, j'étais tellement
sidérée
dans le rêve. J'ai l'impression que c'était un rêve.
Ouais. Et vous avez l'impression d'avoir évolué toute votre vie avec un vide en vous. C'est l'impression que vous aviez ?
Mais c'est pas une impression, c'est une réalité. Et je pense que c'est c'est quelque chose qui m'a empêchée d'être heureuse. Mmh. C'est quelque chose qui m'a empêchée certainement d'être une autre personne que je ne le suis.
Mmh. Quels sont vos contacts aujourd'hui avec votre fils ? Quels sont les liens que vous avez ?
Nous avons des contacts, pas comme une relation de mère-enfant comme avec mes autres enfants, mais nous avons des contacts. Nous savons que nous existons l'un et l'autre et que, si un jour il y avait un rapprochement plus-plus,
oui.
Voilà,
en tout cas,
vous
savez maintenant que vous existez l'un pour l'autre et que vous savez où vous trouvez, et c'est ce qui est important.
Et c'est vrai que c'est une grosse libération de savoir,
De savoir qu'il est là.
De pouvoir mettre un visage.
Ouais.
Oui. Mmh.
Et sûrement pour lui aussi. Merci beaucoup Marie-Christine pour votre appel et votre témoignage au 3921. Nadine Le Faucheur est toujours en ligne avec nous et nous allons accueillir Jean-Marie qui, lui, est né sous X en 1950 et qui se bat toujours pour retrouver ses origines. Ce sera l'occasion pour Nadine Le Faucheur et Jean-Marie d'échanger justement sur ses droits des enfants nés sous X.
Europe 1. L'accouchement sous X commence à se construire sans connaître son histoire, ses origines. C'est la vôtre d'histoire. On vous écoute au 3921. Vous réagissez sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Quand une femme donne naissance en gardant l'anonymat et confie son enfant au service de l'État, vous êtes né sous X, vous avez accouché sous X. Olivier Delacroix vous écoute, vous composez le 3921.
Et nous étions en ligne avec Marie-Christine qui, il y a fort longtemps, hein, presque 50 ans, avait accouché sous X et n'avait pas pu garder son enfant contre son gré. Nadine Le Faucheur, vous êtes sociologue, historienne et vous avez beaucoup travaillé sur l'accouchement sous X. Justement, vous écoutiez le témoignage de Marie-Christine. Que pensez-vous des dérives ? Est-ce qu'il existait beaucoup de dérives autour de l'accouchement sous X il y a 50 ans ?
Malheureusement, oui, et il y a même moins longtemps que 50 ans. Le cas de Marie-Christine est, je pense, beaucoup plus courant que celui de la mère de Béatrice qu'on a entendu au début.
Ouais.
Ce sont souvent, enfin, moi, j'ai beaucoup suivi les réunions de l'association des mères de l'ombre, donc des femmes qui ont accouché sous X, également les associations d'enfants recherchant leurs origines. Et là, je travaille sur des témoignages recueillis dans un certain nombre de cadres, disons. Et
ouais.
C'est vraiment révoltant. C'est révoltant parce que on parle par exemple d'anonymat, mais l'anonymat n'était pas forcément prévu dans la loi. La femme avait le droit de laisser son nom dans son
dossier.
Ouais,
ouais.
Elle n'était pas obligée d'être anonyme. Simplement, c'était plus pratique. Et c'était moins dangereux, disons, comme on pensait à l'époque pour les parents adoptifs. C'était plus simple, voilà. Et il y a beaucoup de femmes auxquelles on a refusé de laisser leur nom alors qu'elles le souhaitaient. On a refusé de laisser des lettres, de laisser même des objets, de laisser des choses.
En tout cas, de laisser des traces. Et lorsque l'on parle de dérive aussi, on a entendu parler aussi de dérives qui allaient beaucoup plus loin avec une organisation autour de ces accouchements sous X pour que les enfants soient adoptés par de bonnes familles. Nous allons accueillir maintenant Jean-Marie. Bonjour, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1, Jean-Marie.
Oui, bonjour Olivier.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous, Jean-Marie ?
Alors moi j'ai donc 68 ans,
oui.
Et donc j'habite à La Rochelle.
D'accord, dans les Charentes-Maritimes, hein, c'est ça ?
Charentes-Maritimes, tout à fait.
Ah, ouais. Mais oui, Omblin, vous voyez, je connais ma géographie. Vous êtes né en 1950, Jean-Marie, vous avez été adopté. Vous dites que vous avez été dans une famille aimante, qui ne vous a jamais caché que vous étiez adopté. Un jour, vous avez eu un déclic et vous avez voulu retrouver votre mère biologique. D'où il est venu ce déclic ?
Bon, tu vois, c'est peut-être pas un déclic, mais donc à 40 ans, j'ai éprouvé le besoin donc de vouloir connaître mes origines et également les raisons pour lesquelles ma mère biologique m'avait abandonné.
Oui.
Question lancinante, c'était qui suis-je, d'où je viens. C'était ça qui m'a, je dirais, encouragé à me lancer dans un parcours du combattant.
Oui.
Et c'est vraiment un parcours du combattant.
Mmh. On l'a entendu avec Béatrice tout à l'heure dans la première partie de cette émission. C'est un parcours du combattant. Est-ce que vous avez réussi à retrouver votre mère biologique, Jean-Marie ?
À ce jour, non. Il y a eu quelques petites avancées, mais les dossiers sont vides.
Oui.
J'ai fait beaucoup de démarches à partir des années 90 à la DAS, c'est devenu
oui.
l'ASE aujourd'hui,
mm-hmm.
et à l'hôpital de Niort, où je suis né le 22 mars 1950.
Oui.
Dossier vide, donc je fais partie d'un homme né sous X qui
oui.
ne peut pas connaître ses antécédents médicaux, et ça c'est très important aussi, alors que les animaux ont une traçabilité.
Mmh. Lorsque vous entendiez Nadine Le Faucheur parler des dérives autour de l'accouchement sous X, au moment où vous êtes née, vous vous sentez dans ce cas-là aucune trace finalement de votre mère biologique encore aujourd'hui ?
Bon, je dirais, c'est pas forcément pour moi une dérive. Bon, je me mets à la place de ces mères, hein, cette mère biologique qui a dû m'abandonner car elle devait être très jeune, m'a-t-on dit. Mais je sais aussi pertinemment qu'il y a eu beaucoup de dérives. D'ailleurs, je recommande de lire l'ouvrage de Patricia Faguet, Née sous X, enquête sur un scandale français,
oui.
qui reflète parfaitement la réalité de cette loi, si injuste en France, avec des témoignages très forts,
mmh.
et qui dénonce des malversations, surtout autrefois, avec des œuvres privées, pour pas la nommer la Fondation Doqueville. C'est scandaleux, donc ce livre vraiment, et je dirais, il faut le lire, hein, parce mm-hmm. qu'on comprendra mieux que ce qui se passe réellement en France.
Jean-Marie, vous souhaitez que la loi change aujourd'hui, vous vous sentez discriminé. Comment souhaiteriez-vous justement que cette loi autour de l'accouchement sous X change ?
Eh bien, c'est très simple, hein, je répondrai effectivement à ce que Nadine Le Faucheur n'a pas répondu à la question. Le modèle, pour moi, le modèle, c'est la Grande-Bretagne. Parce qu'en Grande-Bretagne, effectivement, il n'y a pas du tout d'accouchement anonyme. Hein. Il n'y en a jamais eu.
Oui.
En Angleterre, toute femme va donc se présenter à la maternité, va décliner son identité. Et ensuite, à 18 ans, l'enfant qui a été abandonné et adopté, s'il le souhaite, pourra facilement retrouver sa mère biologique. Et il y aura bien sûr souvent une médiation entre les deux,
oui.
mais l'enfant saura pertinemment d'où il vient et il n'y aura pas de ce secret qui entoure, je dirais, des naissances sous X en France. Ça fait souffrir les enfants et aussi les mères en France. J'estime que la loi devrait évoluer, voire même l'accouchement sous X supprimé et remplacé par un accouchement dans la discrétion je dirais, protégé, où là, il n'y aura plus du tout d'anonymat.
En tout cas, dans l'exemple que vous citez, Jean-Marie, l'Angleterre, il est sûr qu'avec une médiation, tout le monde a le choix, la mère comme l'enfant, et que finalement, l'enfant, surtout, connaît ses antécédents médicaux, ce qui est bien évidemment très important quand on, voilà, pour soi-même, et puis quand on a des enfants, un jour, pour savoir s'il y a des choses dans la famille qui se sont passées. Donc, l'exemple de l'Angleterre que vous citiez, Jean-Marie, est sans doute celui vers lequel nous devrions nous diriger. Merci en tout cas pour votre appel, votre témoignage au 3921. Dans quelques instants, nous serons avec Anne, elle est sage-femme et a accompagné des mères qui souhaitaient accoucher sous X.
Vous ne connaissez pas vos origines, vous êtes née sous X, vous avez accouché sous X. Vous échangez avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et pour conclure cette émission, nous avons avec nous Annie. Bonjour, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1, Annie.
Oui, bonjour.
Oui, bonjour.
C'est Anne-Laure.
Anna, d'accord.
Oui.
Écoutez, excusez-moi. Aujourd'hui, j'ai appelé Madame Le Faucheur tout à l'heure. Je l'ai appelé Nicole à un moment, mais bon, j'ai un problème avec les prénoms sans doute. Anna, donc vous êtes sage-femme et vous avez publié le livre Bienvenue au monde, confidence d'une jeune sage-femme. Dedans, vous y racontez l'histoire d'Héloïse, qui est une fausse identité, hein, une jeune femme que vous avez vue arriver un jour aux urgences et qui voulait accoucher sous X. Quelle est son histoire ?
Eh bien, c'était une jeune femme dont je ne connais pas l'âge non plus et qui était très amoureuse d'un garçon qui finalement l'a quittée. Elle s'est aperçue de sa grossesse tardivement. Et donc, elle est arrivée comme ça, presque sans suivi. En tout cas, nous ne la connaissions pas dans notre maternité.
Oui.
Pour donner naissance à son enfant et nous le confier. Mmh. Et le confier à l'adoption. Mmh. Et donc, c'est vrai que c'était assez, c'est assez terrible, ce genre de situation
Pour une
cette femme, ça l'était. Et puis, pour nous aussi, quelque part.
En quoi les accouchements sous X sont-ils différents des accouchements classiques pour vous, sage-femme ? Vous vivez l'émotion avec ces mères qui savent que le bébé va partir ailleurs ?
Oui, parce qu'en fait, à la différence de ce qu'on peut penser, en fait, souvent, c'est des grands actes d'amour de la part de ces femmes. Ce ne sont pas des actes de rejet ou de mépris pour cet enfant, bien au contraire. C'est elles ont en elles l'espoir d'une vie bonne et meilleure pour leur enfant. Mmh. Et c'est vrai que pour nous qui les accompagnons à ce moment-là, on est le seul interlocuteur qu'elles ont, le seul témoin. Mmh. Et c'est vrai qu'il se passe effectivement souvent, enfin je parle dans la plupart des cas, des échanges extrêmement forts entre nous, la femme et son bébé.
Justement, à quoi font-elles face dans les jours qui suivent l'accouchement, ces femmes ? De quoi vous parlent-elles ? Quels sont les échanges que vous avez avec elles ?
Alors, il y a des femmes qui déjà repartent tout de suite, quelques heures seulement après l'accouchement. Il y en a d'autres qui acceptent de rester plus longtemps. Et souvent, elles nous expriment toute leur détresse, qui est soit sociale, qui est soit d'histoire d'amour compliquée, d'histoire de famille beaucoup compliquée. Mmh. Et elles nous laissent leur bagage, leur enfant, mais aussi leur bagage de vie, et en espérant que ça ira pour eux. Elles ont évidemment ce délai de rétractation de 2 mois après la naissance. Ouais. Mmh. Voilà, et elles nous expriment souvent leurs doutes aussi de se dire, mais est-ce que vous pouvez me dire que je fais le bon choix ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça, c'est pour nous pas toujours difficile de répondre.
Et bien évidemment, Anna, et c'est là que votre rôle de sage-femme dépasse celui que vous pratiquez d'habitude et que vous faites face avec ces femmes. Je rappelle que vous avez publié le livre Bienvenue au monde, confidence d'une jeune sage-femme. Vous y racontez l'histoire donc de cette jeune femme qui a accouché sous X et vous racontez son histoire. Merci en tout cas pour votre appel et votre témoignage au 3921. Merci aussi à Béatrice, à Nicole Le Faucheur, à Marie-Christine et à Jean-Marie de nous avoir appelés. C'est la fin de cette émission. L'accouchement sous X soulève la question délicate des droits de la mère et des droits de l'enfant. Ce droit pour les femmes de ne pas élever leur enfant est remis en cause au nom du droit des enfants de connaître leurs origines. L'accouchement sous X, on l'a vu, suscite de nombreuses questions d'ordre juridique, psychologique, familial et social. Pour mieux comprendre le destin d'une mère qui accouche sous X, n'hésitez pas à aller au cinéma dès le 5 décembre pour découvrir le film Pupille, réalisé par Jeanne Herry, avec lequel nous sommes partenaires. Le mercredi 5 décembre, il sera dans toutes les salles. Vous pouvez continuer à débattre de l'accouchement sous X sur notre page Facebook et sur les réseaux sociaux.
Tous les sujets de l'émission vous appartiennent, on vous le rappelle, sur le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
Europe 1.
Demain, nous parlerons ensemble de la vie après le viol, après l'horreur, comment revivre, comment se reconstruire. Si vous avez été victime de viol et que vous êtes en pleine reconstruction, si un membre de votre entourage en a été victime et que vous essayez de l'accompagner au quotidien dans ce long chemin, appelez-nous au 3921 pour nous parler de votre histoire. Nous serons là, comme d'habitude, pour vous écouter. Comme chaque jour, ma chère Ombline, il est l'heure de se quitter et de retrouver Laurence Boccolini. Je vous dis à demain.